Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, ce livre de Oliver Sacks. Neurologue et écrivain britannique installé aux États-Unis, est un recueil de 24 récits cliniques consacrés aux troubles neurologiques rares ou déroutants, publié en 1985. Il appartient à la vulgarisation médicale, mais aussi à la littérature clinique, car chaque chapitre associe description diagnostique, observation du comportement et attention portée à la personne malade. Le volume examine des situations, la perception, la mémoire, le langage. Le mouvement ou la conscience corporelle se trouve modifié par des lésions ou des dysfonctionnements cérébraux. Son but ne consiste pas seulement à présenter des curiosités médicales. Sacks cherche à montrer que le cerveau ne reçoit pas passivement le réel, mais le construit par des opérations fragiles de reconnaissance, de continuité et de sens. Le livre demeure connu pour sa capacité à rendre la neurologie lisible sans réduire les patients à des symptômes, en maintenant ensemble rigueur clinique, questionnement philosophique et empathie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, agnosie visuelle et fragilité de la reconnaissance, le récit qui donne son titre au livre porte sur un musicien atteint de troubles de reconnaissance visuelle. Il voit des formes, des couleurs et des détails, mais ne parvient pas à les intégrer en objet familier ou en visage porteur de signification. Cette situation montre que voir ne signifie pas seulement recevoir une image par les yeux. La reconnaissance suppose plusieurs opérations cérébrales, organiser les éléments perçus, les relier à une catégorie, puis les inscrire dans un contexte pratique. Le patient peut parfois compenser par la voix, le toucher, le rythme ou des indices isolés. Ce qui révèle que la perception ordinaire dépend de réseaux multiples et pas seulement de la vision brute. Sacks utilise ce cas pour déplacer la neurologie vers une question plus large, comment le monde devient-il reconnaissable pour une personne précise. Le trouble semble spectaculaire, mais il éclaire une réalité générale. La réalité quotidienne paraît évidente seulement parce que le cerveau assemble sans effort apparent des informations dispersées. Quand cet assemblage se rompt, le familier devient étrange, deuxièmement, mémoire, continuité personnelle et vie bloquée dans le temps. Plusieurs récits du recueil examinent des formes sévères de perte de mémoire, notamment le cas célèbre du marin incapable de fixer durablement le présent. Sacks ne présente pas la mémoire comme un simple entrepôt de souvenirs. Il la décrit comme une fonction qui maintient la continuité de la personne, permet de se situer dans le temps et donne une cohérence aux relations sociales. Quand la mémoire récente disparaît, le patient peut conserver le langage, les habitudes ou certains souvenirs anciens, mais la vie se fragmente en épisodes sans accumulation. Le lecteur comprend alors que l'identité personnelle ne repose pas seulement sur le caractère ou intelligence, mais aussi sur la capacité de relier un instant au suivant. Ce thème donne au livre une portée philosophique concrète. La question ne reste pas abstraite, car Sacks montre les effets quotidiens de cette rupture désorientation. Dépendance aux routines, difficulté à reconnaître le vieillissement de son propre corps. Le récit médical devient ainsi une réflexion sur le temps vécu. Troisièmement, perte, excès et perturbation du corps vécu, le recueil ne traite pas seulement de facultés perdues. Sacks montre aussi que certains troubles neurologiques apparaissent comme des excès tics, impulsions, mouvements involontaires. Intensification sensorielle ou expérience perceptive envahissante. Cette distinction est importante car elle évite une vision trop simple de la maladie comme déficit pur. Le cerveau peut manquer de contrôle, mais il peut aussi produire trop de signaux, trop de mouvements ou trop de significations. Les récits liés au syndrome de Gilles de la Tourette, aux troubles de la proprioception ou aux altérations du schéma corporel illustrent cette complexité. La personne ne subit pas seulement une perte fonctionnelle, elle doit réapprendre à habiter un corps devenu imprévisible ou étranger. Sacks insiste sur les stratégies de compensation, par exemple le recours à la vue, à la musique, à la routine ou à une forme de discipline personnelle. Ces ajustements montrent que le symptôme neurologique ne se limite jamais à un mécanisme isolé. Il transforme la conduite entière de la vie. Quatrièmement, le récit clinique comme méthode de compréhension humaine, une originalité majeure du livre tient à sa forme narrative. Sacks part de données cliniques, mais il construit chaque chapitre comme le portrait précis d'une personne confrontée à une modification de son rapport au monde. Cette méthode a une conséquence intellectuelle importante, le diagnostic devient nécessaire mais insuffisant. Deux patients peuvent partager une catégorie médicale sans vivre le trouble de la même manière, car leur histoire, leur métier. Leurs relations et leur capacité de compensation changent le sens de la maladie. Le récit clinique permet donc de relier mécanismes cérébraux et expériences subjectives. Sacks rejoint ainsi une tradition de médecine attentive aux malades comme sujet, non comme simple support de symptômes. Cette approche rend le livre accessible aux non-spécialistes. Mais elle sert aussi les professionnels, car elle rappelle que observation, écoute et contexte sont des instruments de connaissance. Le style littéraire ne remplace pas la rigueur neurologique. Il donne une forme lisible à des phénomènes que le vocabulaire technique seul expliquerait moins bien. En dernier lieu, valeur durable et limite scientifique d'un ouvrage de 1985, le livre garde une forte valeur culturelle et pédagogique, mais il doit être lu avec conscience de son contexte. Depuis sa publication en 1985, les neurosciences cognitives, imagerie cérébrale, classification diagnostique et modèle de la mémoire ou de la perception ont évolué. Certaines descriptions ne constituent donc pas un état actuel complet du savoir neurologique. Sachs privilégie le cas singulier, la scène clinique et la réflexion humaniste. Cette force peut aussi devenir une limite pour qui cherche une synthèse systématique ou des preuves expérimentales détaillées. Le lecteur doit distinguer la portée démonstrative de chaque histoire et sa valeur illustrative. Les récits ne remplacent pas un manuel de neurologie contemporaine, mais ils rendent perceptibles des questions que les manuels abordent souvent de façon abstraite. Cette tension explique la place particulière du livre. Il est moins un traité définitif qu'une porte vers la neurologie vécue. Utile pour comprendre comment une anomalie cérébrale devient une expérience personnelle, sociale et existentielle. En conclusion, ce livre convient aux lecteurs intéressés par la neurologie, la psychologie, la médecine, la philosophie de l'esprit et les récits cliniques bien écrits. Il sera aussi utile aux étudiants en santé, aux enseignants et aux professionnels qui souhaitent réfléchir à la relation entre diagnostic et expérience vécue. Son bénéfice principal est double. Sur le plan intellectuel, il montre que perception, mémoire et identité ne sont pas des évidences naturelles, mais des constructions cérébrales complexes. Sur le plan pratique, il invite à regarder les troubles neurologiques avec plus de précision et de respect, en tenant compte des stratégies par lesquelles les patients conservent une forme de continuité et de dignité. Ce qui distingue ce livre de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, ce ne sont pas seulement les cas rares, mais la manière de les traiter. Sachs combine observation médicale, sens littéraire et prudence morale sans réduire la personne à un objet de curiosité. Comparé à un manuel, il est moins systématique. Comparé à un simple témoignage, il est plus analytique. Sa singularité réside dans cet équilibre entre science, récit et attention aux formes particulières de la vie humaine lorsque le cerveau se dérègle. Si vous souhaitez soutenir Oliver Sachs, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.